Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Spotzol, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode 142, ici Richard Delhomme. Aujourd'hui, je discute avec l'ami Sylvain Grenier. Sylvain, c'est le pionnier de l'ultracyclisme au Québec. Il s'occupe de ces affaires-là depuis au minimum 2014 et depuis, il mène sa barque paisiblement entre vélo de route, fat bike, ski de fond, troubles de l'attention et l'organisation de 14 épreuves. Et détail intéressant, Sylvain a instauré quelques règles intéressantes dans ses épreuves, comme les temps de repos obligatoires ou le classement sans catégorie de genre. Un épisode qui sent bon la poutine et le pogo, donc, et sans plus attendre, Sylvain Grenier. Ouais. Bon, ça va ?
Ça va très bien, toi ?
Mais magnifique depuis le temps. Alors, ça va. Ça va, oui et non. Parce que je suis quand même un petit peu fâché contre toi.
Comment ça? Qu'est-ce que j'ai fait?
Qu'est-ce que j'ai fait encore comme connerie? Je suis un petit peu fâché contre toi, mon petit Sylvain, parce que je pensais qu'on se connaissait bien quand même à ce stade de nos relations. D'ailleurs, t'en profiteras pour saluer ta femme. Mais quand j'ai fait quelques recherches sur toi récemment pour préparer cet épisode, je découvre... Alors attends, je reviens sur mon petit onglet. Je vois, quand je tape Sylvain Grenier cyclisme Québec, je tombe sur Sylvain Grenier, né le 26 mars 1977 à Varennes, est un catcheur, lutteur professionnel québécois.
Eh oui, c'est mon ancienne vie.
Donc, Sylvain, tu vas arrêter tes conneries, tu vas arrêter de te moquer de moi et tu vas arrêter de nous gonfler avec tes histoires de vélo et nous parler de catch.
Tu sais que c'est pas moi, là.
Non, mais je sais, ça, parce que, en fait, ça pourrait.
J'ai une anecdote avec l'autre Sylvain Grenier, par contre, mais on en parlera. Il y a vraiment une anecdote, parce qu'on est vraiment allé dans la même ville.
Vas-y, raconte, hein, raconte.
C'est peut-être même que l'autre monsieur Grenier s'en souvient, là. On est né à la même ville, dans la même année, on a le même nom, même prénom, puis on était un petit bled, un petit village, puis à l'époque, on allait tous dans la même école secondaire, et puis lui, c'était. Dans votre jargon, vous dites une tronche, là. C'était un bolé par chez nous, là, de quelqu'un. Puis moi, j'étais pas bon à l'école, là. J'étais un pourri, j'étais nul. Là. Fait qu'il y avait des... Il mettait tout des groupes par rapport à si on est bon. Puis lui, il s'était trompé de dossier. Fait que, ben pas de dossier, mais d'individu. Tu sais, les professeurs, là, quand ils sont venus nous chercher, moi, ils m'ont mis dans la classe des bolés, puis lui, ils l'ont mis dans la classe des pas bons, là, à la première journée d'école au secondaire, en secondaire 1, là. Puis, ben lui, s'en est rendu compte rapidement. Moi, je trouvais ça cool. Je disais rien. On a fait deux jours comme ça. À la troisième journée, ses parents sont allés voir la direction. Ils disent, hey, vous êtes trompés. Fait que ça, c'est la petite anecdote. Et voilà.
Alors, moi, j'avais fait la différence uniquement au niveau de la musculature.
Ah oui, mais moi, je suis aussi musclé que lui, mais juste à en bas de la ceinture.
L'humour québécois tel que ça m'avait manqué, tu vois. Moi, je maîtrisais l'humour québécois, mais avec les Québécoises.
C'est ça, donc, je salue Sylvain Grenier, qui est rendu retraité maintenant, il fait plus de lutte.
Il commente quand même, parce que je me suis documenté, et du coup, maintenant, il commente. Voilà, bon. Malgré tout, lui, il était peut-être catcheur professionnel, etc. Toi, n'empêche que Sylvain Grenier, le seul, le vrai cycliste du Québec, tu es quand même le pionnier de l'ultracyclisme au Québec et a priori pour encore longtemps, tout simplement parce que tu es encore le seul. On est en 2022, on assiste à l'explosion du bikepacking, de l'ultra-distance, nous en Europe. Toi, au Québec, tu t'occupes de ça depuis 2014-2015 et pourtant, depuis toutes ces années, tu es toujours le seul et voilà.
En réalité, je suis le seul qui a le titre ultracyclisme officiellement. Il y a des événements de longue distance au Québec, mais c'est plus un volet, appelons ça randonnée ou bikepacking randonnée, là, que parce que je sais pas c'est quoi la définition, parce qu'on s'entend, il n'y a pas encore, d'ailleurs, on pourrait en parler, il n'y a pas encore de définition international là, du mot ultracyclisme. Tu sais, ça a le dos large. C'est, même le mot ultra a le dos large dans le monde du sport. Là. Moi, par chez nous, l'ultracyclisme, c'est quand que on fait une distance chronométrée dans un contexte hors norme. Ça, c'est la définition de base du RUC, là, le regroupement d'ultracyclisme du Québec. Là. C'est on fait une distance ou un parcours dans des contextes hors normes. Exemple, l'ultra-défi, qui est notre course la plus connue, là, qu'on parle quand même de 1000 km avec 12 500 mètres de dénivelé positif à boucler en moins de 60 heures, là. C'est ce que j'appelle de l'ultracyclisme. C'est du costaud, c'est pas une balade du dimanche. Là. Fait que ça, c'est ma vision, notre vision au regroupement. Là. Sinon, en parallèle, si on regarde juste les événements de longue distance sportifs, là, il y a ici au Québec, les courses de gravel, ça commence à être de plus en plus populaire. Donc, il y a une course, j'ai oublié le nom malheureusement, j'aurais dû me préparer avant, là, mais c'est une course de 500 km, c'est quand même costaud, là, de gravier. C'est un bel événement, c'est un jeune événement, je pense qu'ils sont juste à deux ou trois éditions, mais c'est vraiment un bel événement. Puis sinon, on a aussi le 808 Bonneville, qui est une course de 808 km, eux, ils ont vraiment plus le modèle ultracyclisme américain. Donc, ils n'ont pas le droit au drafting, puis européens aussi, là, exemple. Vous autres, c'est des départs groupés, hein, à vos événements.
Bah, plus maintenant.
Ah, bon. À cause de la COVID ou…
Exactement, ouais.
Ah, bon.
Ouais. Fait que… Il y a plusieurs écoles, mais globalement, c'est maintenant des départs différés uniquement pour raisons sanitaires et pas de drafting, bien entendu. C'est très proche, hein. C'est très, très proche. Il n'y a pas moult différence entre vous et nous.
Mais sinon, le RUC, on est la seule vraie organisation, entre guillemets, d'ultracyclisme au Québec. Puis on est rendu quand même à 14 événements. Fait que c'est quand même un beau calendrier. Puis on a encore d'autres projets qui s'en viennent. Puis ça se peut qu'on s'expansionne en dehors du Québec. Là. Je te donne un scoop. Là. Fait que.
Ah ouais?
Donc, ça se peut qu'on se dirige vers les maritimes. Donc,
les quoi? Désolé.
Les
hein.
maritimes. Les maritimes, ça, c'est quand t'es le plus à l'est du Canada. Là. Donc, on parle de Nouveau-Brunswick puis de Nouvelle-Écosse, là, plus précisément. Là. Qui est un très beau terrain de jeu pour rouler. Là. C'est ça. Là, on est là-dedans, mais ça va bien. Puis là, tu sais, ça va faire ça fait 8 ans qu'on organise des événements, mais ça fait 9 ans qu'on existe. Avant de faire une première édition, il fallait exister avant là, pour pouvoir la préparer. Là. Donc, en 2023, ça va faire 10 ans que le regroupement existe. J'en suis pas mal content, là, parce qu'au début, on y allait vraiment à tâtons, là, c'est une expression, là, mais on n'était pas sûr. Là, parce qu'en Europe, c'est fort, là, l'ultracyclisme. Là, aux États-Unis aussi, mais au Québec, c'était pas connu du tout, puis il y en a raison aussi, c'est notre réalité à nous au Québec, c'est que des routes, il y en a pas beaucoup, là. C'est la culture vélo est pas bien assimilée pour la plupart des Québécois comparativement en Europe, là, surtout en Europe, là, parce que le vélo, vous naissez avec un vélo dans la main, nous on est avec un bâton de hockey dans la main, là. Vous autres, vous naissez avec un vélo, là, fait que ça fait partie de votre culture depuis une centaine d'années. Là. Nous, le vélo, ça commence là, à être à la mode. Là. Je parle surtout du vélo utilitaire, là, juste se déplacer en vélo. Là. Les villes commencent à prendre connaissance là, que faire une piste cyclable qui fait 4 km, qui part de nulle part, puis qui finit nulle part et qui mène nulle part, ça sert à rien. Là. Fait que faut qu'il y ait une interconnexion entre les réseaux cyclables et tous les villes au Québec, ils commencent là, à y penser. Là. Fait que c'est quand même récent, puis ça implique aussi l'ultracycliste, vu que là, déjà qu'il n'y a pas beaucoup de cyclistes au Québec, là, appelons ça des crinqués, là, des sportifs, là. Je vous dirais qu'il y a quelques milliers de sportifs au Québec, là, pas plus. Là. Puis nous, on est vraiment une niche là-dedans, là, mais c'est de plus en plus populaire. Ça va de soi. Là. C'est vraiment. Puis nous, c'est plate à dire, mais le COVID-19, nous, il nous a aidés là, dans nos événements à cause de la formule qu'on a. Vu qu'on n'est pas des gros groupes, nous, on limite tout le temps le nombre de participants. Donc, c'était plus facile pour nous de jouer avec la réglementation par, via le ministère de la Santé et tout ça. Là. Fait qu'on a, nous, on n'a annulé aucun événement malgré le COVID-19. Là, depuis ça n'a rien changé dans notre routine en bout de ligne, à part plus de party après puis pas de souper. Là, mais sinon, dans le volet sportif, ça, on s'en est bien sorti. Voilà.
Dis donc, je trouve que tu te concentres bien aujourd'hui. Hein, c'est...
J'ai pris mon café.
Je t'ai connu beaucoup plus dispersé hein, quand même. Hein.
Ah, bon. Tu vois, je m'améliore.
Ah ouais, c'est bien, je vois que tu as pris tes petites pilules bleues, c'est bien, c'est cool. Quand tu me dis le Québec, le vélo n'est pas hyper populaire, vous en Europe, blablabla, tatati, tatata. Bon, au Québec, vous avez quand même le Grand Prix de Montréal et le Grand Prix de Québec. Il y a quand même quelques pros qui courent en Europe. Vous avez quelques belles marques à Montréal, quelques beaux quand même. C'est pas non plus un sport complètement inconnu. Et il y a moult bons cyclistes. Tout à l'heure, tu parlais de cette épreuve gravel de 500 km. Je crois qu'elle a été remportée par Bruno Langlois, que je verrai l'été prochain à The Rift en Islande. J'ai vu qu'il est inscrit. Et on m'en a parlé récemment. J'en profite pour passer le bonjour à Alexandre. Je te raconterai après pourquoi. Mais je suis quand même étonné, tu vois, par le retard pris sur l'ultra, parce que il y a quand même clairement des cyclistes au Québec, il y a des courses, il y a des coureurs, il y a tout ce qu'il faut. Effectivement, ça c'est pas la Belgique ou l'Italie, mais vous n'êtes pas non plus complètement les parents pauvres du cyclisme. La question que je me pose, c'est pourquoi, entre guillemets, un tel retard en ultra ? Pourquoi tu es encore le seul ? Pourquoi tu es encore le seul ?
Ben, il n'y a pas une grosse clientèle. Comme je vous dis, là, nous, moi, à ma connaissance, des ultracyclistes, là, je veux dire, qui s'affirment être ultracyclistes, j'en connais une centaine, pas plus. Là. C'est, là, c'est, puis, par contre, des ultracyclistes en devenir, qui ont un fort potentiel, genre, là, le gabarit est plus large. Puis c'est ouais. Ça notre mission à nous, c'est de démystifier ça. C'est pour ça qu'on fait quand même des épreuves faciles, entre guillemets. On a maintenant un 300, qui est relativement facile. Là. On a récemment une nouvelle course qu'on a, qui est la course autour du fleuve, poursuite de Saint-Laurent, qui c'est que du plat. Tu sais, là, c'est pour attirer les gens qui au début qui ont peur, là, parce que ça fait quand même peur, là, partir pour un 24 heures de vélo, là, c'est pas tout le monde qui s'intéresse non plus, là. Puis rouler de nuit, ça fait peur à beaucoup de monde aussi. La pluie, le vent, le froid, le name it, là. Fait que, tu sais, c'est tout ça, là, parce qu'on a des très grands écarts de température, là, nous, l'été ici, je donne un exemple à l'ultra-défi, le matin, on peut partir, il fait 25 degrés Celsius, puis rendu à la nuit, il fait zéro, là. Fait que c'est tout ça, là. Mais lentement, mais sûrement, comme je dis, nous, on augmente d'environ 25% notre clientèle à chaque année.
Ouais. Fait que... Mais t'es quand même le seul organisateur. Pourquoi?
Oui, mais la raison aussi pour ça, c'est comme je t'ai dit au départ tantôt, des circuits routiers, il n'en pleut pas au Québec. Là. On ne peut pas rouler sur les autoroutes. Il y a beaucoup de villages qui donnent un cul-de-sac. On peut juste rouler sur les routes provinciales. Nous-mêmes, à l'Ultra Défi, on a déjà accaparé les plus belles routes provinciales de toute façon. Fait que je vois mal quelqu'un organiser une course qui est déjà organisée. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, fait que le seul terrain de jeu qu'on n'utilisait pas encore en ce moment, c'est le gravel bike. Parce que, moi, j'organise surtout des événements que je connais, là, tu sais, puis je faisais pas de gravel bike à part un peu. Donc, c'est pour ça qu'au départ, qu'on n'en organisait pas, malgré qu'il y avait une forte demande. Donc, pourquoi vous ne faites pas du gravel? Puis là, maintenant, il y a une organisation, justement, qui se spécialise là-dedans. Tant mieux. Eux autres sont situés plus dans le sud du Québec, parce que c'est pas mal là qu'est chemin de garnotte, là. Nous, comme moi, ici, à Québec, là, des chemins graviers, là, à part des chemins privés ou des chemins à cul-de-sac, là, il n'y a rien, là. Fait que c'est pas dans mon secteur qu'on va faire des grosses courses de gravel, là. Par contre, des belles routes en asphalte neuve avec des beaux paysages, de la forêt, c'est dans mon coin ici que ça se passe. Puis c'est ici que 70% de nos courses ont lieu. Puis c'est ça. Mais on travaille sur un événement, comme je te disais, qui va avoir lieu en Nouvelle-Écosse. qui devrait avoir lieu en 2024. C'est long, là, préparer nos choses. Là. Puis on travaille sur une transcanadienne. Fait que un peu comme la RAM. Un peu comme la RAM. Il y a déjà une formule qui existe. Eux autres, ils partent de Vancouver. Souvent, je te donne un exemple. Là, je juge personne. Okay? C'est une manière de parler. Les gens disent, j'ai traversé le Canada, j'ai fait la traversée du Canada. Ils ont fait Montréal-Vancouver ou Vancouver-Montréal. Par chez nous, le mot traverser, c'est quand tu prends une pomme puis tu veux la couper en deux avec un couteau puis tu arrêtes aux trois quarts, est-ce que ton couteau a traversé la pomme? Non. Il en manque un bout avant de la traverser au complet. Quand tu arrêtes à Montréal, il te reste encore 1200 km de bicycle pour traverser le Canada au complet. Là. Donc, c'est pas traverser le Canada. Donc, nous, on veut faire le parcours officiel de la traversée du Canada qui partirait du point le plus à l'est du Canada jusqu'au point le plus à l'ouest qui se trouve à la frontière de l'Alaska. Donc, on parle d'un parcours de 11 000 km. Donc, on travaille là-dessus en ce moment. Ça fait 3 ans, je ne vous cacherai pas qu'on est là-dessus. Là. Puis, parce qu'on veut garder notre même formule, là, c'est-à-dire que il y a des points de contrôle avec du temps d'arrêt obligatoire et ainsi de suite. Là, tout ça, c'est long à organiser. Là. Puis, je suis pas bilingue, là, fait qu'il faut trouver des partenaires bilingues et ainsi de suite. Là, mais on n'a pas de date à ce sujet-là, mais c'est sûr que ça va avoir lieu d'ici 5 ans. Là. Fait que...
Pardon. Attends, je prends quelques petites notes parce que tu viens de dire 2-3 trucs hyper intéressants. Alors, je vais juste prendre... Tac.
Juste faire du pouce parce que tu vas en parler sûrement. Là. Tu parlais de bikepacking.
Nous, maintenant, tu peux meubler, moi je prends mes notes, hein. Vas-y.
Nous maintenant, depuis l'année dernière à l'Ultra Défi, le 1000 km, on autorise, on a un volet bikepacking. C'est-à-dire que les gars, ils participent quand même au classement, c'est la même course. Donc, tu as le choix d'y aller avec un support, donc avec de l'accompagnement, ou en solo, en bikepacking. C'est la même course, le même classement, sauf qu'il y a un sous-classement bikepacking. Mais parce qu'on fait ça parce que ça se peut très bien qu'un gars en bikepacking gagne la générale quand même. D'ailleurs, on l'a vu l'année dernière, ou le deux ans, en rideau qui a gagné, il était tout seul, il était sans support. Là. Exemple au défi des 21, ça fait 5 ans de suite, là, ou, excusez, 4 ans de suite que M. Fagnan remporte le défi des 21 puis il est en totale autonomie. Fait que c'est pour ça. Donc, on a un classement général qui inclut tout le monde, là, toutes les âges, toutes les catégories. Puis après ça, on fait une sous-catégorie qui est bikepacking. Puis on a une autre sous-catégorie qui est les plus de 55 ans. Puis on en a quelques comme ça. Là.
Alors, si je poursuis dans tes... je reviendrai sur... Parce que tout à l'heure, tu as parlé des temps d'arrêt obligatoires. Et ça, c'est un petit débat qui nous anime ici. Sur les temps d'arrêt obligatoires, justement. Et là, tu viens de parler des sous-catégories. Et tout à l'heure, tu disais également, nous, c'est traverser des régions pas hostiles, mais en tout cas presque. Et dans l'ultra-défi, je note qu'il y a, et tu me l'avais déjà expliqué, il y a un passage de 400 km loin de tout, il n'y a absolument pas de ravito. Est-ce que ça explique, pas l'obligation, mais en tout cas l'intérêt d'avoir une assistance?
C'est en partie oui, sauf que nous, stratégiquement, nos contrôles sont placés dans ces endroits-là, justement pour pallier. Exemple maintenant, parce que le parcours, nous, change à chaque année. Là. Fait que cette année, donc à l'édition de maintenant, il n'y aura pas de section de 400 km là, sans ravitaillement possible, sauf s'ils roulent de nuit. Parce qu'ici, à partir de 11h le soir, dans un petit bled, là, tout est fermé. Il n'y a pas de McDo partout, ces affaires-là. Fait que là, oui, il faut que ça ait une autonomie, mais on a placé nos contrôles exprès à ces endroits-là, sachant qu'il va arriver là vers 2h du matin, ainsi de suite. Là. Fait que, parce que veux pas, peu importe si on change les parcours, les moyennes, eux, ne changent pas vraiment. Là. C'est ça qui est drôle. Là. Donc, il accélère par contre. On dirait que plus que le parcours est difficile, plus que les gens accélèrent. Histoire vite faite de même, là. L'Ultra Défi, la première édition, le gagnant, il a fait la boucle de 1010 km avec 9000 mètres de dénivelé. Le gagnant, c'est ma mémoire est bonne, il l'avait fait en 61 heures. Aujourd'hui, tu serais hors délai. c'est peut-être une idée comment que ça a évolué rapidement, notre sport. Là.
Ça, tu l'attribues à quoi, cette accélération
La mentalité, elle a changé. Avant, dans nos débuts, les ultracyclistes étaient plus des randonneurs qui développaient un volet compétitif, mais qui n'étaient pas entraînés pour ça. il gardait quand même le réflexe du randonneur qui est j'aime ça faire du bicycle longtemps, mais j'aime pas trop souffrir, puis j'ai pas le goût de m'entraîner toute l'année pour souffrir sur un vélo. Tandis que là, maintenant, les hommes et les quelques femmes prennent toute l'année pour s'entraîner, pour arriver à notre course prêts, et crois-moi, ils sont vraiment prêts. C'est fou les voir aller. Là. Tu sais, quand tu dis que Vincent, il a gagné le 1000 km cette année, il l'a gagné en bas de 42 heures. Là. Tu sais, on parle de l'année passée, le trajet, c'était 1000, 1030 km, 12 000 mètres de dénivelé. Là. Ça veut dire que c'est une moyenne de 30 km/h tout le temps. Là. Tu sais, puis là-dedans, on l'oblige à arrêter. Là. Fait que, tu sais, c'est assez malade. Là. Puis, depuis le tout début, les moyennes ne font qu'accélérer, comme je dis. Là, chaque année, c'est de plus en plus rapide. Fait que jusqu'où ça va aller, je sais pas. Mais pour les ralentir, c'est là qu'on y était avec la formule des pauses obligatoires. Parce que sinon, ça en est vraiment dangereux.
Alors, à part que c'était... Est-ce que tu peux être plus précis sur le côté « ça devient vraiment dangereux » Parce que nous, ici, on a des exemples de gars qui se sont endormis... qui sont endormis en descente. Alors, je sais que ton rêve, c'est un de tes rêves, c'est de venir rouler en France et de venir monter le Ventoux, tu me l'avais dit.
Oui.
Et sur la Race Across France, il y a quelques gars qui se sont endormis dans la descente. Alors, évidemment, ils ne sont pas repartis. Et il y a plusieurs exemples de coureurs qui sont allés trop loin dans leur gestion du sommeil et qui ont été obligés d'abandonner à cause de ça. Pourquoi toi, tu as finalement, bien avant tout le monde, décidé d'instaurer des pauses obligatoires?
Ben, moi, il faut comprendre que maintenant, je suis organisateur à temps plein, mais avant, j'étais d'abord moi-même un ultracycliste. Là, donc, du longue distance, je l'ai fait beaucoup, 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 puis je me suis endormi souvent sur un vélo. Là. Ben, souvent. C'est arrivé au moins à 2-3 reprises, là, dont une fois que j'ai tombé. Puis pourtant, je me pensais correct, parce que des fois, ça arrive de même. Hein, c'est rapide. Là. Puis, c'est là que j'ai commencé à réfléchir. Puis, en commençant à organiser des courses, j'ai vécu deux accidents à mes événements que c'est sûr et certain que si ces individus-là auraient dormi ne serait-ce qu'une heure, cet accident-là ne serait pas arrivé. C'est sûr qu'ils s'étaient endormis. Donc, avant, je n'avais pas de commissaire sur les parcours. J'avais des commissaires juste au contrôle. Maintenant, on a des commissaires au contrôle et sur le parcours. Et je crois qu'on est la seule organisation au Québec, en tout cas, à faire ça. C'est terrain. Donc, c'est pas juste tu suis ton GPS, puis on t'attend. Là. Nous, surtout le peloton de tête, là, on les watch. Là. Puis dès qu'il y a un symptôme là, de fatigue ou de peu importe, c'est dangereux pour sa sécurité ou ceux des collègues, on intervient. Mais pour ne pas avoir à intervenir et créer des frustrations, on décide d'imposer une règle. Puis, c'est con, mais c'est rendu vraiment le fun parce que c'est bien très stratégique. C'est une stratégie de plus. Si on impose 220 minutes d'arrêt obligatoire, le 220 minutes, ils peuvent le diviser comme ils veulent, soit par 10 minutes, soit par une demi-heure, soit... ils sont obligés de le prendre au contrôle. Donc, on a 5 contrôles. Fait que là, les gars, ce qu'ils font, c'est qu'ils swatchent. Puis, mettons, exemple, ils arrivent en paquet. Souvent, le peloton de tête sont 3-4 gars, là. Il arrive au premier contrôle, là, il se demande, est-ce que tu arrêtes là? Ah, moi, j'arrête pas. Ah, moi, je vais arrêter 5 minutes. Ah, moi, tu sais, là, déjà, il négocie. Ah, mais s'il arrête pas, moi non plus. Fait que là, il repart, tu sais, là. Puis après ça, exemple, quand il arrive à l'avant-dernier contrôle, il sait qu'il y a un gars, mettons, le gars qui arrive deuxième, il y a 20 minutes de retard sur le gars en premier, mais il sait que le gars en premier, il n'a pas encore pris aucune pause. Fait qu'il sait qu'il faut qu'il arrête 220 minutes. Fait que là, le gars, il ne se stresse plus. Tu sais, il laisse aller. Le gars, il est premier, il est content, mais il oublie qu'il faut qu'il arrête, il faut qu'il calcule ses 200 minutes. Fait que le gars, il arrive, il jase, puis il dépasse. Tu sais, donc, ça devient très stratégique. Et puis, nous, vu que ça l'oblige les gars à se reposer, et crois-moi, le 220 minutes, les gars, ils dorment vraiment. Là. Parce que souvent, à date, les gars, ce qui arrive, c'est que, je parle surtout du peloton de tête, là, ils vont attendre le plus longtemps possible avant de prendre le break, puis ils vont le prendre deux blocs. Fait que... Donc, ça fait quand il arrive pour la dernière journée que nous, traditionnellement parlant, la dernière journée, c'est la partie la plus technique du parcours. Là. Fait qu'ils sont quand même frais pour la finale. Puis, c'est ça. Puis, on est la seule organisation à faire ça, cette formule-là. On l'a peaufiné avec le temps. Avant, c'était pas tout à fait ça. Fait que donc, maintenant... Ben c'est ça. Fait qu'on oblige, le monde à... Ah! Aussi, à l'inverse, ce 220 minutes-là, OK, sert de minutes de rattrapage. Je te donne un exemple. Nous, on a des fenêtres de contrôle très serrées à nos contrôles. Exemple, tu arrives avant midi au contrôle 1, puis tu arrives à midi 20. Fait que là, on va piger dans ta banque de minutes, on t'enlève 20 minutes, il te reste 200 minutes, puis tu peux continuer la course. Tu comprends? Parce qu'on prend pour acquis que le gars s'est reposé 20 minutes avant d'arriver au contrôle ou peu importe. Donc, c'est ça, ça permet de rattraper du monde qui sont pas à l'abandon, qui sont juste hors délai. Donc, tant qu'ils ont le manque de minutes, ben, ils ont fait du repêchage pour les remettre en course. Fait que voilà.
Donc, pourquoi ce choix arbitraire de 220 minutes?
C'est plus que nous, on voulait absolument qu'il se repose au moins 2 heures, donc 120 minutes. Après ça, on s'est dit 2 heures, c'est pas assez. Parce qu'au départ, le 4 ans, c'est là, on avait imposé un 120 minutes. Après ça, on s'est rendu compte que 120 minutes, c'est pas assez parce que les gars prennent les premières minutes juste pour remplir le bidon, puis se faire un petit massage. Là, déjà, là, ils se prenaient un 50 minutes. Fait qu'à la fatigue, pour dormir à la fin, il lui restait juste un 30 minutes. Là, avant même le jour 1, fait qu'on s'est dit, c'est pas assez. Fait que c'est là qu'on a décidé de mettre ça à 220 minutes pour qu'il y ait un 50 minutes de préparation de ci, de ça, puis au moins un 2 heures, de un 120 minutes pour se reposer vraiment. C'est de là ce nombre de minutes-là.
Je note également un truc dans ton classement. C'est que tu parles de classement général, tu parles de solo et assistance, et tu parles de plus de 55 ans.
Ouais.
Et il me semble que tu es aussi le premier, ou en tout cas un des premiers, à avoir supprimé ou aboli le classement par sexe.
On l'avait aboli, on l'a remis, je ne vais pas dire par dépit, là, mais
presque.
On l'a remis parce que la raison pour laquelle on l'avait aboli, c'est que c'était plus une question sportive, justement. Je sais pas comment dire. Je veux pas. On n'est pas sexiste à rien. On adore les femmes. C'est juste que, sportivement parlant, si moi je serais une femme, là, puis j'arrive à une compétition où il y a un classement par femme, tant mieux, mais je suis la seule femme à la compétition. Ça vaut-tu vraiment la peine de faire un classement par femme? Tu sais, je suis sûr de gagner ou je suis sûr de faire un deuxième. J'aime bien mieux me comparer aux autres gars qui sont là, à la masse. Tu sais, là, c'était ça l'idée là, au départ. Fait que c'est pour ça qu'on trouvait ça ridicule de mettre un classement pour femme vu qu'on n'avait jamais assez de femmes pour ne serait-ce faire un podium. Tu sais, là, à l'ultra-défi, il n'y a jamais eu plus que 3 femmes là, lors d'une édition. Là. Fait que après ça, on avait le défi des 21 que là, on avait beaucoup plus de femmes. Mais encore là, le top de femmes connues à un départ de mémoire, c'est l'année dernière, puis il était juste 5 femmes. Tu sais, qu'est-ce qui est plus valorisant sportivement? Est-ce que c'est de dire j'ai fini 5e sur 5 ou j'ai fini, 14e sur 70? Tu sais, là, c'est ça. Mais bref, il y a eu des débats qui sont faits, puis nous, on n'aime pas la chicane, là. Fait qu'on s'est dit, ben, c'est OK, là, si ça vous dérange pas, là, ben, on va le remettre. Fait que pour ça, on a remis la sous-division, si on veut, là. On faisait meilleure femme, par contre, ça, on l'a toujours fait. Donc, il n'y avait pas un classement pour femme, on soulignait la meilleure femme. Ça, on l'a toujours fait, là. C'est ça. Fait que là, on a remis le classement pour femmes, maintenant, officiellement, à partir de cette année.
D'accord. Donc, c'est qu'il y avait juste un petit truc dans ton...
C'est Siri.
Ouais. Ah, c'est Siri qui s'est excité. D'accord, très bien. Tu m'avais également expliqué que statistiquement, après 400 km, il n'y avait plus de sexe. Plus de sexe entre participants, en tout cas. On n'a plus que ça à foutre. On a eu 400 km pour s'éclater entre nous, donc maintenant, on roule. Non, mais bon, ouais, statistiquement, aussi, après 400 bornes, il n'y a plus vraiment de différence.
C'est prouvé, là, j'ai les chiffres. Puis aussi, c'est ça qui me fait de la peine, puis on s'en était déjà...
Éteins Siri, là. Qu'est-ce qu'il a encore? Éteins Siri.
Je ne sais pas comment.
Voilà.
Je ne sais pas comment.
Voilà.
C'est ça, les femmes, malgré qu'elles ne sont pas beaucoup à nos courses, je vous dirais qu'à 90% du temps, les femmes n'abandonnent pas. Là. Donc, s'il y a 10 femmes au départ, ils vont être 9 à l'arrivée. Là. Tandis que dans nos courses, il y a 10 gars au départ, il va en avoir 2 à l'arrivée, là, au prorata. Là. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que les femmes ont beaucoup plus de volonté, de persévérance, selon moi. Là. Ils sont plus posés, plus cérébralement stables pendant la course. Là. Puis, parce que, c'est ça, dépasser les 400 km, ce qui arrive, c'est que là, maintenant, tu te passes en mode cruise control, là, en mode, puis dès que tu as un inconfort, là, ton cerveau, les messages de ton cerveau sont multipliés par 10. Là. Puis l'idée, tu sais, je le dis souvent, faut pas que tu écoutes ton cerveau là, quand tu es en ultra, sinon tu abandonnerais après 200 km. Donc c'est ça. Fait que les femmes sont très bonnes pour la gestion mentale. Puis aussi pour l'organisation. T'es vers aller dans les contrôles, là, ça opère. Là, c'est au quart de tour. Là. Tout ça pour dire que les femmes sont très, très bonnes là, dans longue distance. Je parle pas juste de vélo, là, c'est prouvé aussi. J'ai une amie moi, qui organise de l'ultra-trail, là, puis les femmes performent très, très bien là, dans l'ultra-distance, en course à pied, en trail, puis même en canot. Là, nous, on a une Canadienne qui a traversé l'océan en canot, là, il y a une couple d'années. Là. Fait que, c'est ça. C'est juste qu'ils ont peur, là, de... Je sais pas. Ça, peut-être, là, ils disent, ouais, mais ils ont des enfants, ils ont ci, ils ont ça. Bon. En tout cas. J'ai des enfants aussi, puis je fais des courses, là, mais bon. Fait que c'est ça.
Bon, justement, tu fais des courses, ou t'en as fait. Si je reprends un petit peu donc les dizaines d'articles à ta gloire sur Internet, je vois Sylvain Grenier aime pédaler. Et en à peine 10 ans, il est passé de patate de divan à ultra-cycliste.
Assez vieux, ça.
C'est vieux.
C'est Maxime qui avait écrit ça. Ouais.
Je vais te dire la date, c'est Maxime Bilodeau qui l'a. Alors, c'est pas si vieux que ça parce que c'est 2018. Mais donc, il y a 10 ans environ, tu pesais 120 kilos, tu fumais 2 paquets de clopes. Et alors, par contre, il y a un truc que je comprends pas, c'est tu mets à l'université, ma diète était essentiellement composée de pogo, de craft diner et de bière. C'est quoi pogo?
Un pogo, c'est une marque, là. C'est une saucisse entourée de panure. C'est ça, un pogo.
D'accord.
Avec un bâton dedans.
Ah, comme une glace, en fait.
Ouais, mais salé.
c'est vraiment une autre culture. Hein.
Ouais.
Bon, indépendamment de la blagounette, de se dire, il y a 10 ans, tu avais une hygiène de vie, qui était ce qu'elle était. Et pourquoi, qu'est-ce qui t'a amené à ce changement radical et à te mettre sur un vélo et à faire de l'ultra? Parce que tu aurais juste pu faire du vélo, je dis ça au hasard, hein, tu aurais pu juste être messenger à Montréal, par exemple.
Ouais, mais justement, j'en parle.
Pourquoi t'as poussé jusqu'à ça, jusqu'à ce niveau?
Tu sais, moi, j'ai un surnom, moi, qui s'appelle l'Ultra Crinqué. Ce surnom-là, moi, ça fait des années qu'il me suit. Puis, il a démarré... moi, je fais longtemps que je fais des courses de vélo. Même dans le temps que je mangeais des pogos, là, je faisais quand même des courses de vélo, mais j'étais vraiment pas bon, là. J'ai commencé à changer ma diète. Après l'université, j'ai déménagé à Montréal. J'étudiais à Chicoutimi. J'ai déménagé à Montréal. Et puis, je m'étais donné plus de temps pour participer à des événements de vélo parce qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de courses de cyclotourisme, cyclosportive. Puis, mais il n'y en avait pas à Montréal. Puis moi, je n'avais pas de véhicule. Donc, je me déplaçais en vélo au départ de la cyclosportive. J'arrivais tout le temps juste avant le départ. Je faisais la course. Puis je repartais chez nous. Puis j'ai des cheveux longs. Moi, je suis facile à reconnaître. J'ai une barbe, j'ai des cheveux longs. Je suis facile à reconnaître sur un vélo. Là. Fait que les gars qui avaient participé à la course, eux autres, ils me redépassaient en véhicule. Puis ils me klaxonnaient. Puis, hey, qu'est-ce que tu fais là? Je me retourne chez nous. Hey, t'es bien capoté, t'es bien craqué. Hey. C'est comme ça que ça a commencé. Donc, par défaut, je faisais déjà de l'ultracycliste. Donc, je faisais un 40 km, 60 km avant une course de 80 km, puis je repartais un autre 60 km. Puis, il fallait que je revienne avant noirceur parce que j'avais pas mis de lumière ou peu importe. Donc, j'ai fait ça pendant les 2-3 premières années là, de ma vie cycliste sportive. Puis, pour être plus en forme, bien, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de m'alimenter comme un cabochon. J'ai fait affaire avec une nutritionniste. Qui m'a fait une diète là, pas trop là, elle m'a surtout dit quoi ne pas manger là. J'ai élaboré ça là, puis depuis ce temps-là ben voilà j'ai changé là, puis j'ai fait beaucoup de vélo depuis.
Donc, tu as arrêté le pogo, tu as arrêté la poutine, tu as arrêté la bière et tu fumes plus.
J'ai pas arrêté la bière, désolé.
Ah, mais c'est pas grave.
Non,
et maintenant, tu es directeur d'un centre de ski de fond, je ne sais plus où d'ailleurs, c'est ça?
Ici, juste en arrière de chez nous.
Attends, c'est où? C'est où par rapport à Montréal, par rapport à Québec, tout ça?
Je suis à Québec présentement.
D'accord.
J'habite à Québec et le centre de ski de fond est à Québec, c'est à Charlebourg. Moi, personnellement, je trouve que c'est un des plus beaux centres de ski de fond dans la région de Québec. En tout cas, c'est celui le plus proche. C'est le plus beau, le plus proche de la ville de Québec, mettons. Mais c'est pas fait pour les débutants. C'est vraiment... c'est ça. Moi, j'aime le sport difficile. Tu sais, là, fait que... nos sentiers au ski de fond de Charlebourg, c'est du... Premièrement, c'est juste du ski classique. C'est en single track. Puis, c'est des sentiers sont très étroits. Fait qu'on... On passe proche des arbres, on passe proche des roches et tout, c'est sinueux, ça monte, ça descend, il n'y a pas de plat. Ça me représente bien. Puis, donc là, j'ai eu la chance d'avoir de devenir le directeur du centre, je suis vraiment content. Là. Puis ça m'occupe pas mal l'hiver. Vu que je faisais déjà beaucoup de ski de fond l'hiver, là, c'était pas mal ça mon entraînement, là, parce que je ne suis pas très sport intérieur. Fait que,
tu zwiftes pas toi?
Non. Pas encore. Ça a l'air vraiment le fun maintenant. Je vais t'avouer, je commence à être tenté. Mais je ne vois pas le temps que j'aurais. Je n'ai pas le temps de faire ça. Fait que c'est ça.
J'ai cru voir aussi que tu as un petit... pas trouble de l'attention, mais quand même un petit peu. Est-ce que ça t'a... Alors déjà, est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai mal lu ou est-ce que je me suis trompé avec quelqu'un d'autre encore?
Non, j'ai un TDAH, mais c'est assez récent. Que j'ai été diagnostiqué par hasard. Là. C'était quand je suis à l'université, il y avait une étude qui s'était faite, en tout cas, sur le TDAH. Là, puis c'est un de mes profs qui avait dit: toi, Sylvain, tu es TDAH, c'est sûr. Fait que là, j'ai fait partie de l'étude. Puis à la fin, le professeur en charge là, d'expérience, là, parce que le TDAH, c'est quand même une nouvelle condition. Là. C'est récent. Là. Moi, dans mon temps, on ne parlait pas de ça. Là. Ça fait juste peut-être une dizaine d'années là, que c'est connu, là, ce trouble-là. Là. Alors,
juste pour être précis, c'est un trouble de l'attention, c'est ça?
C'est ça, oui. C'est déficit de l'attention avec hyperactivité.
OK.
Donc, en gros, ton cerveau, il pense à... Mettons, je te parle, comme là, on parlait de ce qu'ils te font, là. Ben, tout de suite, moi, si je contrôle pas mon cerveau, ce qu'ils te font, neige, neige, froid, tu sais, là, puis là, je pars sur une autre, on part ailleurs, tu sais, là. Exemple, moi, quand je tourne la pelouse chez nous, là, quelqu'un de normal, il va tourner la pelouse comme ça, tu sais, là, son terrain, puis il a fini, moi, je vais faire zzzz. Ah, faudrait que j'aille changer le fil de la piscine. Ben, je pars, je vais changer le fil de la piscine, je reviens, je fais deux lignes. Ah, faudrait que j'aille sortir les poubelles, mais on va sortir les poubelles. À la fin de la journée, par contre, je vais avoir fait comme tout le monde. Là. Si, mettons, mes tâches ménagères, c'était de vider le fil de la piscine, aller porter des poubelles, puis tourner la pelouse, je vais avoir fait les trois, là, mais pas dans le même ordre. Moi, je vais avoir fait les trois en même temps. Puis, au niveau professionnel, c'est exactement ça que je fais. Là. Tu sais, comme là, en ce moment, je suis directeur de centre de ski de fond, mais je fais une entrevue avec toi, puis tantôt, j'ai un autre projet, je fais de la vidéo aussi. Là. Puis, tu sais, là, je fais trois jobs en même temps. Là. Puis, c'est comme ça que je suis bien. Moi, c'est comme ça que je réussis à être, à être stable. C'est comme ça que j'ai développé ça, parce que c'est ça, j'étais TDAH, là, fait que mon cerveau, il y a plusieurs cases, là, puis il fonctionne tout en même temps.
Donc, t'essayes pas de le, je sais pas si on peut, mais en tout cas, t'essayes pas de le soigner, si on peut parler comme ça?
Oui, j'ai déjà essayé, j'ai déjà été médicamenté, j'ai mes amis à moi là, qui sont TDAH, puis qui sont médicamentés, puis ça leur fait bien. Sauf que moi, on trouvait pas la bonne, disons, le dosage. J'étais plus le même Sylvain. À l'époque, ma conjointe de l'époque m'avait dit, Sylvain, elle n'avait pas dit arrête tes médicaments, là, mais elle disait qu'elle ne me reconnaissait plus. Là. T'sais, justement, parce que je ne coupais plus la parole, je l'écoutais, j'étais vraiment
le
même.
Le mec chiant, quoi. T'es attentionné, t'sais, sympa et tout.
J'étais jamais en retard. Non, mais je déconne.
Alors que maintenant, t'es insupportable et ça.
Mais, puis le sport m'a aidé à. C'est ma médication. Ouais. C'est surtout le vélo. Puis c'est prouvé, il y a eu des études là-dessus, là, que l'automobile, dans le fond, tout ce qui est linéaire pour un TDAH ou un TDA, ça l'aide à centraliser nos idées. Quand je suis en voiture, j'aime ça faire justement beaucoup d'automobiles, c'est des longues distances. Parce que c'est... Puis comme en vélo, je pense à rien. Je sais pas pourquoi, mon vélo, il tombe à off. Quand je suis en bicycle, je pense juste bicycle. Tu sais, là, c'est tout. Ça fait vraiment... C'est le seul moment que je me repose. Mon cerveau, c'est la seule fois qu'il va se reposer, c'est sur un vélo ou en auto. Parce que quand je me couche le soir, mon cerveau fait ça. Je me relève le matin, le cerveau fait ça. Puis toute la journée, là. Donc, c'est ça. Je me plains pas, là. C'est ça ma condition. Puis j'ai appris à vivre avec. Puis mes amis me connaissent comme ça. Mes employeurs me connaissent comme ça. Puis ça en fait une qualité aussi, là. Vu que je peux mener de front plusieurs projets en même temps, là. Puis c'est ça. Là, j'ai appris. J'ai deux agendas, j'ai deux cellulaires, j'ai deux. Tu sais, là. Fait que. Puis je m'en sors bien à date, là. Ça fait une vingtaine d'années que je suis comme ça. Ben, j'ai toujours été comme ça, là. Ça fait une vingtaine d'années que je suis diagnostiqué comme ça, puis tout va bien.
Parce que j'ai. En fait, ça m'a fait plaisir, entre guillemets, ça m'a fait plaisir de lire ça, parce que souvent je discute avec un gars proche de chez moi, Laurent, je le salue bien bas, parce que demain il fait un 350 dans la boue au sud de, enfin, tout autour de Paris, donc ça va être très drôle. Et il m'expliquait que lui, bah, il est TDAH aussi, et que ça l'aide énormément sur le vélo, et c'est exactement ce que tu viens de dire. Sur le vélo, il se met dans un tunnel et ça l'aide énormément. Et tu parlais de médication et on en rigolait et tout avec les amphètes, avec la Adderall, avec la Ritaline. Nous, c'est plutôt Ritaline en France. Et je pensais que ça servait à exciter. Je ne comprenais pas l'intérêt pour les personnes hyperactives. Et en fait, il m'a expliqué que ça vous met dans un tunnel, dans une tâche, et vous vous concentrez, vous êtes super focus sur cette tâche-là. Et il me dit, j'en prends pas. Et le vélo me fait exactement le même effet. Ça, je peux me mettre dans un tunnel sur le vélo. Et c'est une aide considérable.
Exactement. C'est comme là, à matin, je suis allé faire du sport. Aussi, c'est pour ça que tu me trouves peut-être posé, là, correct, à matin. Là. Je suis allé faire du fat bike là, dans la neige, là, à moins 25 degrés Celsius. Là. Fait que ça me reposait. Là, puis,
ça t'a un petit peu canalisé?
Ouais. Puis ça, je savais qu'il fallait qu'on se parle, puis un matin, puis je suis allé faire un tour du centre de ski. Tantôt, quand tu m'as appelé, j'étais au centre de ski de fond. Ouais. Je faisais... Fait que c'est ça. Le sport, c'est... Ben, le sport, d'année, tout le monde devrait faire du sport. Ça, c'est prouvé là, que c'est bon pour aérer ton cerveau, pour prendre de l'air, prendre des couleurs, prendre du soleil, voir la nature. Moi, je comprends pas le monde qui reste enfermé chez eux à la journée, à part le monde qui a des empêchements physiques, là, mais le monde qui a les deux jambes, les deux bras puis les deux têtes, là, je comprends pas pourquoi ils vont pas au moins prendre une marche à tous les jours. Moi, j'avais ma grand-maman qui, c'est un peu grâce à elle, je pense que je fais du sport, ma grand-maman qui est décédée, là, mais elle, à tous les jours, elle marchait 1 heure, tous les jours, puis elle avait quand même 88 ans, là. Puis elle marchait 1 heure tous les jours à l'extérieur, beau temps, mauvais temps. Puis ça a été un modèle pour moi, là, ma grand-maman. Puis justement, moi, à tous les jours, je fais au moins, tu regarderas mon Strava, là, je fais au moins 1 heure d'activité physique tous les jours, peu importe les conditions, dehors. C'est une obligation que je me donne pour avoir une stabilité. C'est physiquement, ça m'aide physiquement, puis aussi mentalement.
Bah, de toute façon, vu les conditions que vous avez, tout à l'heure, je parlais d'Alexandre, on s'est parlé hier au téléphone, il est à Montréal, il fait moins 15, toi, il fait moins 25 à Québec. À un moment donné, si vous passez de octobre ou novembre à avril, disons, à l'intérieur, c'est pas très bon non plus.
C'est bien.
Vu les conditions que vous avez, à un moment donné, faut sortir. Même si ce sont les conditions que vous avez dans lesquelles vous avez grandi. Donc si vous voulez faire quelque chose, bah, faut aller dehors. Ou alors, faut zwifter avec la fenêtre ouverte.
Ouais.
Ce qui est moins drôle.
Ouais, mais je dis souvent, moi, il n'y a pas de mauvaises conditions, le météo, il y a juste des mauvais vêtements. Quand tu es bien habillé, là, puis tu fais du sport, là, je ne dis pas que je vais attendre l'autobus, là, quand on fait du sport, il y a des façons de s'habiller. Là. Puis aussi, j'adapte mon sport selon les conditions météo. Là. Comme hier, ici, c'était une tempête. C'était pas le temps d'aller faire du ski de fond. J'étais allé courir. Comme là, matin, il fait moins 25. Il fait un petit peu trop froid pour faire du ski de fond. J'étais allé faire du fat bike. Fait que l'idée, c'est de faire un sport puis t'habiller en conséquence selon la météo. Mais en bout de ligne, le but, c'est de sortir dehors tous les jours. Parce que moi, là, moi c'est ça ma façon, ma ligne directrice.
Et toi, comme... athlète, Tu fais quoi maintenant? T'as mis un petit peu ça de côté pour te concentrer sur le travail ou sur l'organisation? Ou t'as encore des quand même quelques idées, quelques projets, mais dans ta pratique personnelle pour toi?
Là,
pas sûr de l'organisation. Il y a pas. Tu prépares quoi?
J'ai mis ma carrière sportive sur pause officiellement cette année. Là, je sais pas si tu as su, j'avais participé à la Chic Choc, qui était une course en Gaspésie. Et j'ai abandonné en plein milieu. Puis c'était aucunement physique. Là, j'étais en parfaite santé. Là. C'est vraiment le mental que ça venait lourd. Ça venait très lourd parce que tu peux pas participer à un événement, surtout un nouvel événement, puis l'organiser en même temps. Là. Ça se fait pas, là. Déjà, c'est difficile juste participer en tant que coureur. Mais en plus, il faut que tu penses, hey, les ravitaux, vas-tu être là? Est-ce que mon staff, ils vont faire telle affaire? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce que nanana? Tu peux pas être focus sur ton coup de pédale, puis tout, là. Puis après ça, tu vois ton staff qui ont besoin d'aide, tu sais, qui ont des questions, Fait que là, ils t'appellent, hey, c'est vrai, mais là, t'es supposé de participer à un événement. Tu dis, hey, wow, là, ça... Fait que là, si j'ai un choix à faire, est-ce que je pense juste à moi, puis je finis la course, puis mon événement s'écroule? Tu sais, l'organisation tombe, puis mes amis me lâchent, puis mes collègues me lâchent, ou j'y supporte, puis je complète avec eux la course pour que tout le reste du peloton ait du fun. Ben, c'est ça que j'ai fait. J'ai abandonné, puis j'ai aidé mes collègues pour finaliser l'événement qui en était à sa première édition, là. Puis, c'est ça. Puis, avec le recul, là, j'ai fait un mea culpa là-dessus, là. Puis, c'est impossible d'être organisateur, en tout cas, d'un événement en devenir, là, puis de participer en même temps, là. C'est ça. Fait que c'est mentalement, c'est trop exigeant, là. Puis, moindrement que tu as une tête sur les épaules puis tu vois ton équipe courir à droite puis à gauche, tu peux pas les laisser dans le pétrin. Fait que c'est pour ça. Donc, j'ai décidé de prendre une pause d'au moins 5 ans, histoire de former un nouveau directeur pour le RUC éventuellement, là, pour que je puisse démissionner, entre guillemets, pour revenir à la compétition. Là. Mais je me laisse vraiment pas avant 2028 là, comme retour, là.
C'est loin quand même, non? C'est loin, non?
Ouais, mais j'ai pas le choix, là, vu qu'il y a deux événements qui s'en viennent, c'est des gros événements. Puis après ça, d'autres projets aussi, à même nos événements déjà existants, on a des petites formules qui s'ajustent. Puis aussi, je vous cacherai pas que moi, mon rêve, c'est de gagner l'Ultra Défi un jour, là. j'ai fait une coupe de podium, mais je l'ai jamais gagné.
Tu veux gagner ta course, toi? Toi, tu veux gagner ta course?
Ouais, sinon, je participe pas. Fait que là, c'est tout le temps pour gagner. Fait que là, au moins faire un podium. Puis je suis arrivé proche souvent, mais il me manquait de temps le petit plus. Là, mais en même temps, dans ce temps-là, j'organisais aussi. Là, fait que là, je me dis, ça serait quoi une journée l'année que je, pendant un an de temps, je vais m'être focusé juste en entraînement sans penser à l'organisation du tout. Qu'est-ce que je donnerais sur un bicycle? T'sais, c'est mon rêve, là. Parce qu'il faut comprendre que c'est pas moi qui ai décidé d'organiser l'Ultra Défi et tout, là, tu sais. C'est parce qu'il n'y en avait pas. Puis je voulais participer à cette course-là au Québec. C'est comme ça que c'est arrivé, là, au départ, là. Tu sais, moi, je faisais de l'Ultra, fallait aller aux États-Unis ou en Ontario, là. Il n'y avait rien d'Ultra au Québec, là. Absolument rien, là. Fait que là, à un moment donné, moi puis 2-3 amis, on s'est dit, ben, gars, faisons-le, là. C'est comme ça que c'est arrivé. J'ai pas choisi, là. Moi, j'aurais bien mieux arriver avec une course clé en main de 1000 km puis la gagner, là. Mais là, ça n'existait pas. Fait que là, on va le faire. Tu sais, là. Fait que c'est comme ça que c'est arrivé. Là ben, pour l'instant, mais là, je commence à avoir de la relève. Là. C'est ça la bonne nouvelle. Là. Je commence à avoir une équipe vraiment. C'est saisonnier. Hein. Ici, nous, on n'est pas à l'année. Là. On roule juste 4 mois par année. Donc, c'est difficile d'avoir du staff à long terme. Mais là, ça fait 3 ans que j'ai la même équipe. Donc, ça s'enligne pour encore être la même. Fait que éventuellement, on va pouvoir faire une transition douce là, pour que ça, d'ici 5 ans, dans le fond, en bout de ligne, c'est d'ici 4 ans parce que je me laisse 1 an d'entraînement. Fait que, donc, dans 5 ans, je devrais revenir sur un vélo à l'Ultra Défi au moins, là, puis gagner.
Donc, les mecs, là, amis québécois, amis québécoises, sachez-le, dans 5 ans, ça va saigner, Sylvain revient.
Non, là, je suis sérieux, tu peux le dire, là, je suis très sérieux. La journée, je vais revenir sur un vélo en mode course. Ça va être vraiment pour kicker des culs.
pour kicker des culs, d'accord. Celle-là, je vais la garder. Merci beaucoup. Ça va m'occuper, celle-là, pour la sortir. Tout à l'heure, tu as dit, quand je courais, il fallait que j'aille aux États-Unis ou en Ontario. Ouais. Comment ça a évolué, justement, dans les autres parties, à la fois du Canada et des États-Unis? Parce que, bah, pour tout te dire, là, je travaille sur un magazine Gravel et j'ai une rubrique qui s'appelle Compétition. Et je vais discuter avec Bobby Wintle, l'organisateur de la Mid-South, donc qui est la première grosse course gravel en Oklahoma, la première course au mois de mars, la vraie grosse. Et je vais lui poser la question suivante. Est-ce que le gravel n'est pas déjà en train de stagner un petit peu aux États-Unis, comparé à l'explosion que nous, on peut vivre en Europe? Et du coup, est-ce que l'ultra-distance sur route ne stagne pas un tout petit peu aux États-Unis, en tout cas en Amérique du Nord? Parce que vous avez la rame, vous avez plein de trucs, mais j'ai pas l'impression d'une effervescence. J'ai pas l'impression de voir la même effervescence que par chez nous.
Mais tu parlais du gravel bike là, c'est bon ce que tu dis comme point. Parce que tantôt on en a parlé un peu. L'autre vraie raison, ça me fait penser à ça, pourquoi qu'on n'organise pas de gravel bike nous? Je te disais, parce que je connaissais pas trop ça, puis tu sais, il faut faire du repérage beaucoup, faut connaître pas mal des routes du Québec. Mais l'autre raison, c'est que ma crainte à l'époque était, parce que moi, avant, j'organisais des courses de fat bike, l'hiver. C'est mon gagne-pain, là. Je me suis rendu compte assez rapidement que, justement, la clientèle course de fat bike était très, très, très limitée, parce que souvent, le monde voyait ce sport-là comme étant un entre-saison. Tu sais, comme étant un jeu, comme étant un hobby, et non une discipline compétitive. Puis, j'avais une crainte que ça fasse la même chose pour le gravel bike. C'est-à-dire que le monde qui font du gravel bike, c'est juste pour chiller, regarder la nature. Je me disais, il n'y a pas vraiment de clientèle compétitive dans le gravel bike. Par chance, la gang là, avec Bruno, que tu parlais, il prouve que j'avais tort. Il commence vraiment à avoir... Puis les vélos sont pas mal mieux aussi que dans mon temps. Oui. Je le disais, là, on est rendu vraiment des bombes.
Il y a Adam Roberge aussi qui marche très, très fort.
Ouais. qui est très sympathique d'ailleurs, je le salue.
Mais je vais l'appeler la semaine prochaine.
Fait que, ouais, c'est une bête, là. Il y a un moment donné, il va venir à l'ultra-défi, Adam. Là. J'ai sans rien de le convaincre. Puis,
je lui dirai.
Il n'y a pas le choix. C'est là que ça se passe.
Je lui dirai, écoute, t'es costaud, mais là, t'as 4 ans pour gagner, parce que dans 5 ans, c'est raté, tu gagneras pas. Mon gars, dans 5 ans, tu fais deuxième, laisse tomber.
Bon, peut-être pas, là, mais en tout cas, ben, je me suis toujours mis la barre haute, là, sportivement. Là, c'est le même qu'on avance. Là. Puis, il ne me compare pas à Adam Roberge pantoute, là, mais bon, on verra dans 5 ans, lui, il est rendu où. Là. Puis, mais tout ça pour dire que c'est ça, la clientèle gravel, la clientèle fat bike, c'était traditionnellement, en tout cas ici au Québec, beaucoup moins compétitif là, que le volet vélo de route. Mais bon, là, il commence à avoir beaucoup de cyclistes maintenant qui font que du gravel. D'ailleurs, si ma mémoire est bonne, Geoffroy Dussault avait déjà remporté le défi des 21 avec un vélo de gravel, d'ailleurs. Donc, c'est pour te dire à quel point que les vélos, la qualité des vélos et tout, là, elle a évolué. Mais j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver avec le vélo de gravel là, ici en Amérique, là.
Et même sur la route, par rapport justement à ce que tu disais sur l'Ontario, par rapport aux États-Unis, même la longue distance sur route, j'ai pas l'impression qu'on ait cette même hystérie autour du bikepacking. Nous, on a quasiment une nouvelle épreuve par semaine. Bon, j'exagère un tout petit peu, mais à peine.
Il y a la masse. En France, vous êtes...
Mais partout, vous êtes... en Europe, hein, tu vois, là... Bon, on a la Race Across France, il y a la Race Across Belgium qui a été... donc, Belgique qui a été reprise... dans les semaines qui viennent, je vais parler avec la fille qui co-organise la Race Across Angleterre. Y a plein d'épreuves, des traversées en Espagne, des trucs à travers les Balkans, ça n'arrête pas. Et je vois pas l'équivalent, pourtant je me renseigne, hein, je mène une veille active sur tout ça, et je vois pas la même chose chez vous.
Mais comme
Amérique
j'ai
du
dit,
Nord. Amérique du Nord.
Juste pour la Canada, là, parce que les États-Unis, j'ai perdu un peu le fil de ce qui se passe aux États-Unis depuis 2-3 ans. Ce qui arrive, c'est que ça, comme je disais, il n'y a pas beaucoup de routes ici, il n'y a pas beaucoup de possibilités de parcours, puis on ne peut pas traverser 10 pays en 2 jours. Là.
Oui, c'est peut-être, un peu le même, c'est peut-être un peu le même principe pour les États-Unis, en effet.
C'est moins attirant. Parce que le volet, la clientèle bikepacking, elle, à ma connaissance, ce qui les attire, c'est le volet aventure. C'est l'aventure, c'est vraiment, c'est pas vraiment le volet compétitif. Là. Fait que d'abord, je parle, oui, il y a une petite compétition, mais c'est d'abord l'aventure, le fait d'être autonome, d'arrêter quand ils veulent, de repartir quand ils veulent, c'est l'anarchie, si on veut dire, là, c'est vraiment. Parce que moi, beaucoup de mes amis qui pratiquent le bikepacking, là. Puis qui viennent à mes courses avec support, là, mais bon. Mais tu sais, c'est ça, là, mais. Puis aussi, il y a un volet monétaire, hein. Faut pas se cacher, là, que bien s'équiper, là, de nos jours, c'est de l'argent, là. Tu sais, j'en ai vu, moi, que le sacoche sur le vélo valait plus cher que le vélo. Tu sais, tu sais, une sacoche de cadre, là, c'est 150$. Tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est des choix, là. Il y en a qui s'achètent des pick-up, puis il y en a qui s'achètent des sacoches pour mettre sur un vélo, là. Mais c'est ça, il y a le volet monétaire. Puis exemple, la RAM, tantôt, là, moi, il y a une année, j'étais vraiment entraîné pour y aller, mais ça coûtait ben trop cher. C'est juste il y a l'inscription, mais il y a le fait qu'il faut y aller. Ouais. Tu as ton équipe, il y a le pendant, il y a l'après. Il faut que tu aies un budget de au moins 15 000 $ canadiens là, pour si tu veux participer à cette course-là. Là. C'est de l'argent, là. En plus de ton équipement, là. Donc, c'est tout ça aussi là, qui tient compte. Fait que nous, c'est pour ça qu'au RUC, malgré que le monde pense que nos courses sont chères, au Prorata, on est les événements de vélo les moins chers au Québec. Là. Fait que, tu sais, nous, si tu t'inscris à l'Ultra Défi, tu as une participation gratuite au Défi des 21 puis à la Royale. Là. Donc, au kilomètre, ça fait que tu as 1600 km de course là, pour à peine 400 $.
Combien l'inscription là, à l'Ultra Défi?
Ben là, la pré-inscription, c'était 400, mais là, l'inscription en tant que telle, je crois que c'est 500 $ là, canadien, taxe incluse. Puis ça inclut une participation au Défi des 21, qui est quand même notre course la plus courue. Là. Fait que moi, personnellement, je trouve que c'est pas cher. Puis nous, on aimerait charger moins cher, mais malheureusement, les voitures qu'on utilise ne roulent pas à l'eau, puis on loue beaucoup de véhicules pour nos événements. Puis, moi, les commissaires sont rémunérés, c'est pas des bénévoles. Donc, tout ça fait qu'on a des coûts, des dépenses. Là. Puis, il y a du temps d'organisation derrière ça qui est pas. Avant, je le faisais bénévolement, maintenant, j'ai une maison à payer et j'ai des enfants. Là. Fait qu'à un moment donné, c'est ça.
Donc, tu es devenu un professionnel de l'organisation en plus.
Par défaut, ouais. Ouais. Là, je t'attends plein là-dedans depuis 3 ans.
Eh, mon petit Sylvain, dis donc, je trouve qu'on a été rudement efficace, hein. Sans médicaments, étonnamment. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, quelque chose que j'aurais oublié de mentionner, mis à part inciter mes auditeurs à venir traverser l'Atlantique quand ça sera possible et sans choper le COVID à l'arrivée à Montréal?
J'encouragerais fortement mes amis les Français à venir traverser au Québec. Il y avait commencé à avoir une petite mode là, de Français qui venaient à nos courses il y a 4 ans. On avait au moins 1 à 2 Français à l'Ultra Défi ou au Défi des 21. Puis, depuis 4 ans, plus personne. Je sais pas si les billets d'avion ils ont explosé là, ou il y a eu le COVID aussi, mais 2 ans avant le COVID, il n'y avait plus de Français qui venaient. Là. Ou ils se sont rendus compte que les Québécois sont rendus ben trop forts sur un vélo, fait qu'ils ont plus de chance de gagner. Là. Mais
c'est l'unique raison. Hein. Je pense que faut pas aller chercher plus loin. Vous êtes trop balèze.
Ben, honnêtement, là, sans farce, là, le calibre a vraiment augmenté. Il a explosé là, dans le monde de l'ultra au Québec. Là, c'est beau à voir. Moi, c'est ma plus grande fierté, honnêtement, de voir que les gars, j'y suis pas mal tout sur ce travail. Puis de voir qu'ils s'entraînent vraiment fort, puis que les gars, ils arrivent avec des 10 000 km dans les jambes avant même le départ de la course. Puis c'est pas un prérequis pour participer à l'Ultra Défi, là, par contre. Non, mais par contre, si vous voulez remporter l'Ultra Défi, soyez prêts. Là. C'est vraiment... Mais par contre, juste au niveau de participer pour avoir l'expérience, ben c'est pour ça qu'on a créé le 300, le 500, puis le 1000. Fait que, tu sais, venez viser en 300. Là, au moins, ils voient comment ça roule, notre machine, comment ça fonctionne. Le 500, ça commence à être du costaud parce que quand même, c'est quand même une boucle avec 9000 mètres de dénivelé positif sur 500 km. Puis ben, après ça, ben, il y a le 1000 km que ça, c'est vraiment le Klondike. Là. C'est vraiment la Coupe Stanley par chez nous. Là, de, c'est le en tout cas, bref, c'est la course des courses. Je dis le temps qu'au Québec, la course des courses de vélo de route de longue distance, c'est l'ultra défi. Puis, puis j'espère que ça va toujours rester comme ça. Là. Puis c'est pour ça qu'on change le parcours à chaque année. C'est pour que ce soit jamais la même course. Fait que voilà.
Tu peux pas t'empêcher de comparer ça à la Coupe Stanley. Hein.
Une bâche québécoise.
j'en déduis que tu suis de près les résultats des Canadiens.
Puis cette année, pas cette année.
Pourquoi?
Tu regarderas le classement, tu vas comprendre.
Ah non, mais attends, quand on est supporter d'une équipe, on les supporte même quand ils perdent.
Non, mais il y a le volet aussi, cette année, j'ai pas le temps. J'ai vraiment trop de... Ah j'ai oui, plus de d'accord. télé non plus, j'ai plus la télé.
Carrément.
J'ai plus, non, t'as, j'ai plus...
T'as tout éjecté, t'as gardé que ouais. ta femme et ta fille.
J'en ai deux, fait que j'ai une grande puis une petite, là. Fait que déjà là, j'ai une fille de bientôt 11 ans puis une petite de 2 ans, fait que là, y a les ouais. deux, ils sont pas aux mêmes places dans la vie, là. Fait que... puis j'ai mes projets, puis j'ai d'autres projets en dehors de... Il n'y a pas juste le vélo dans la vie, là. Je fais d'autres projets aussi, là. Fait que tout ça m'occupe beaucoup, là. Fait que... Puis je fais ce que j'aime, fait que j'ai pas besoin d'autres hobbies, d'autres... Fait que c'est ça, là. Mais je les encourage à essayer d'au moins faire les séries cette année, mais ils partent de loin, là.
Bon, est-ce que tu roules... Bon, tu me l'as dit tout à l'heure, tu roules un tout petit peu, mais si, par exemple, il m'écoute, je sais qu'il m'écoute. Si je disais à Pascal Bride, Pascal, t'envoies un message à Sylvain et tu l'invites à venir faire ton truc cet été, parce qu'en plus, ça va passer pas très très loin de chez ta femme, hein, parce qu'elle est française du Puy-en-Velay, et donc ça donnerait l'occasion... Est-ce que tu ferais le truc organisé par mon pote Pascal? Un petit 1000 km à travers la France, détendu. Tu lâches ta femme au Puy-en-Velay et tu vas faire un tour de vélo.
Moi, c'est mon rêve, c'est d'aller participer à une course ultra en France. Mais comme je t'ai dit, si je participe à un événement, j'aime pas ça arriver là comme figurant. Là.
Bah, tu t'entraînes avant, je sais pas.
Ouais, mais c'est sûr que si toutes les étoiles sont en ligne, oui. Là.
Oui.
Mais oui, définitivement. Là. Même, il y a aussi... Elle existait encore, vous aviez à l'époque un événement qui était fait, qui s'appelait les trois défis, le défi des trois...
Les trois merveilles?
Non, c'était pas ça. C'était pas les trois sommets, les cinq.
Alors, il y a plusieurs trucs à base d'addition. Il y a, dans l'ordre de difficulté, il y a les trois merveilles qui partent du Mont-Saint-Michel et qui arrivent à Paris. Ça, c'est facile. Ça fait 300-400 km, c'est tout plat. Donc, c'est hyper facile. Tu as le défi des cinglés du Ventoux qui consiste à monter les trois montées le même jour. Et ça, honnêtement, c'est pas un problème.
Moi, il y a ça, là, c'est ça qui me parlait. Ça, puis il y a un autre événement de genre.
Ouais. Les cinglés du Ventoux, bon, ça commence à siffler un peu, mais ça reste quand même extrêmement faisable et même, pas dire facile, mais tu vois, il y a du ravito, c'est une zone touristique, donc tu as des restos et tout ce qu'il faut en bas, en haut, à chaque accès, c'est facile. Le seul problème, c'est la chaleur et puis éviter de ne pas se faire percuter par un camping-car, c'est vraiment ça le seul problème. Et au-dessus de ça, tu as les sept majeurs qui est donc...
Les sept majeurs, c'est ça, c'est exactement cet événement.
À la frontière italienne, tu vois, avec sept cols au-dessus de 2000 mètres. Et là, par contre, tu vois, quand tu le fais en 24 heures, c'est déjà super costaud. Ça, c'est du violent, voilà.
Non, moi, ça me parle beaucoup. En plus, moi, je suis vraiment pas un grimpeur. Je suis pas mal plus un rouleur. Là,
vous avez pas de coach chez vous, donc je vois pas comment tu le serais.
Mais tu sais, vu que j'aime ça souffrir, là, ça m'attire beaucoup, là, ces affaires-là. Là, mais un jour.
Puis, bah écoute, ouais. Voilà, tous ceux qui ont entendu le message sauront écrire Sylvain Grenier sur Facebook, le RUC, Rassemblement de l'ultracyclisme québécois. Et voilà. Moi, je vais te laisser pour un truc, ça, tu te souviens, la minute de solitude. Je vais te laisser pour ça. Quand tu as fini de faire ta minute, tu prends le temps que tu veux, tu laisses ton ordinateur ouvert avec cet onglet-là pour que je puisse récupérer les fichiers. Voilà. Et tu dis ce que tu veux. En attendant, ouais. Sylvain, bravo.
Je dis ce que je veux, mais faut que je paye sur stop ou je laisse rouler tout ça?
Non, tu laisses rouler, je m'occupe de tout. Quand tu as fini, tu pars. Comme ça, moi, si je vois que tu n'es plus devant l'écran, eh ben, je coupe et je m'occupe du reste. Et voilà. OK, Sylvain?
Ça marche.
Et merci beaucoup. Et puis, à très bientôt. tu passes le bonjour à la famille, tu lui dis que j'ai bien hâte de vous rencontrer au Puy-en-Velay, et puis voilà. Ok. Mais
t'es aussi le bienvenu au Québec, là.
Ah, mais moi, tu sais, ça sera pas bienvenu au Québec, ça sera de retour au Québec. Tu le sais très bien.
Fait que...
C'est pas que j'ai vraiment apprécié votre nourriture, notamment la poutine, mais bon, j'ai une longue affection avec ce coin du monde, donc je reviendrai aussi vite que possible et avec pour le plus grand plaisir. Voilà.
Super.
Donc, à plus.
Salut. Bonne fin de journée. Donc, la minute de solitude. Ça m'a fait plaisir de parler à Richard. Ça faisait la deuxième fois là, qu'on s'essayait de se jaser ça. Et puis, donc, salut à tous mes amis français et européens. Donc, comme je disais, n'hésitez pas à venir à nos événements ici au Québec. On a des super de beaux événements, pas juste ceux qu'on organise, mais il y a d'autres événements, ceux qui s'intéressent justement au Gravel Bike. Comme je le mentionnais, il y a un super de bel événement ici au Québec. Puis, juste venir rouler sur nos routes. On a des belles routes. Ceux qui aiment la nature, vous pouvez rouler des centaines de kilomètres sans croiser aucune maison ici au Québec. Les espaces verts, les étendues d'eau, c'est tout ça que ça offre le Québec. Beaucoup de gens joyeux et des jolies Québécoises. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, tout le monde. Ça fut un très grand plaisir de jaser avec vous. Et puis, si jamais vous voulez participer à un des événements du regroupement d'ultracyclisme du Québec, vous avez juste à m'écrire sur Facebook. Je suis assez facile à retrouver. Sur ce, bonne journée tout le monde. Salut! Yeah, voilà.